France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon et Loïc Antoine, avec aussi Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Sacha Mattei, réalisée par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. Dans le roman dont nous parlons ce matin, un jeune homme qui vit dans un village afghan loin de la capitale s'entend dire qu'il y a autant de livres dans le monde que d'étoiles dans le ciel. Et c'est entre autres ce qui lui donne envie de partir l'explorer. Toute cette semaine, nous entendons ce que les écrivains ont à nous dire sur le monde, sur leur monde. Aujourd'hui, l'écrivain afghan Khosromani et son dernier livre « Rattraper l'horizon » où, comme Huckleberry Finn dont il adore les aventures, le narrateur s'enfuit pour échapper à son destin. Pas en radeau et pas non plus à pied, car des bandits guettent derrière chaque pierre.
Cette brise, il la reconnaît. Le matin où, caché sous une bâche dans la benne du vieux camion de l'ingénieur, il quitta définitivement le village, il se jura de ne plus jamais se souvenir de sa vie d'avant. Le camion démarra à grand-peine et, rejetant de la fumée noire, se mit lentement en route. Étendu sur des petits morceaux de charbon, le jeune homme ne pouvait voir ni son échoppe, ni la maison de son père, ni la mosquée, ni la route. Il fallait attendre encore quelques minutes pour que le gigantesque insecte gravisse la petite colline et que le village disparaisse. Après quoi, il repoussa prudemment un bout de la bâche et huma l'air matinal. C'était la même brise. « Je ne me souviendrai pas de toi non plus », lui dit-il. Et il retira le prélard. Où allait-il ? À Kaboul, dans le vrai monde. Sa radio, il ne l'avait pas prise. L'appareil appartenait à une autre époque. Pareil pour sa calotte blanche. Souvenir du mola avec laquelle il s'était torché le derrière la veille. Et qu'il avait ensuite jeté dans les latrines de la mosquée.
Sur la route qui mène le jeune homme à Kaboul, il y a des troupeaux de moutons, il y a des chars de combat, en fait des épaves, mais dont les canons visent toujours l'horizon, cet horizon qu'il faut rattraper en laissant derrière le village où il a grandi avec son père Mola qui ne lui adresse plus la parole. Un jour, l'ingénieur qui conduit le camion lui a parlé de la capitale, grande, bruyante, ouverte, ses visages et ses odeurs, ses rues noires de vagabonds, de marchands, de hippies, de manifestants, son énergie matinale et sa torpeur. L'ingénieur a connu Kaboul avant l'occupation soviétique, ensuite il y a eu la guerre civile, puis les talibans qui en ont effacé les couleurs. Mais les talibans viennent d'être chassés par l'armée états-unienne, nous sommes en 2001, et le jeune homme part découvrir la ville monstre, la ville qui mange ses propres enfants. Il va errer dans Kaboul lors de longues nuits d'ivresse. Bonjour Khosromani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez bien Kaboul pour y être né en 1987, pour y avoir grandi jusqu'à ce que vos parents s'installent dans une grande ville afghane, la ville de Balkh, dans le nord du pays. Rattraper l'horizon, votre livre paru cette année chez Actes Sud, n'est pas un livre autobiographique, mais il raconte néanmoins l'histoire d'une génération, la vôtre. Est-ce qu'ils sont nombreux, les jeunes Afghans, qui en 2001, à la chute des talibans, convergent ainsi vers Kaboul ?
Oui, moi je pense que c'était le cas de beaucoup, beaucoup d'Afghans à l'époque. Parce que vous savez, 2001, c'est pas une date simple, anodine. C'est une date très importante dans l'histoire contemporaine de SPI, de l'Afghanistan. Parce que si on parle de cette histoire de 1973, moi je crois, à 2001, l'Afghanistan, c'était le théâtre de... ce qu'on a connu, c'était les guerres successives, l'instabilité politique, les coups d'État qui s'enchaînaient, le chaos total. C'était ça, l'Afghanistan. Et en 2001, pour la première fois, on a l'impression qu'on voit le bout du tunnel, que cette longue et interminable parenthèse, on arrive à la fermer. Et ça, c'était important pour nous. Oui, donc c'est pourquoi je pense que, comme moi, comme le jeune homme de ce roman, il y en a beaucoup qui sont partis découvrir Kaboul.
Vous ne le découvriez pas, Kaboul, vous ne découvriez pas cette ville où vous étiez né jusqu'à vos 5 ans à peu près. Vous y avez grandi, mais en 2000 ans, vous êtes rentré à Kaboul?
Oui. En fait, je suis né à Kaboul en 87 et en 92, quand le gouvernement tombe, ma famille, ils quittent Kaboul.
Les talibans arrivent en 92.
Oui, ouais. C'est les Mujahidines qui
arrivent. Les Mujahidines avant les talibans, pardon.
Et les talibans, ils arrivent en 96. Et ma famille part, quitte la capitale pour aller s'installer quelque part dans le nord. Tout d'abord, il y a une petite ville et ensuite la ville que vous venez de citer, Balkh, qui est une grande ville. Et là, j'ai passé mon enfance un peu dans cette ville. En 2001, les talibans tombent et moi, je suis allé à Kaboul, je suis rentré chez moi en 2003, je pense. Et c'était, oui, en 2003 et puis en 2005, définitivement.
Alors, vous retrouvez une ville que vous avez connue. Est-ce que beaucoup d'autres, comme votre narrateur d'ailleurs, ont, quant à eux, bravé une sorte d'interdit en quittant leur village pour une ville qu'ils ne connaissaient pas, mais dont ils avaient ouï dire sans cesse, la ville de Kaboul, qui représentait dans l'imaginaire à l'époque quelque chose de plein, d'une ville presque pleine de vices?
Oui, je pense que c'était le cas de beaucoup de gens, comme je viens de dire, mais... Le problème, c'est qu'il y a, on a en Afghanistan, on a Kaboul qui est la capitale, la ville par excellence, et on a le reste du pays. Et ça a toujours été comme ça depuis le XIVe siècle. Kaboul, c'est un peu la ville mère. Et XIVe siècle, à ce moment-là, Kaboul, c'est la capitale de Bobur. Bobur, c'est le prince timoride de l'Inde, le fondateur de l'empire moghol. Et puis, vous avez le fondateur de l'Afghanistan moderne, en 1750 à peu près. Et Kaboul devient la capitale officielle de ce pays. Donc, il y a à peu près 250 ans. Et donc... C'est là où tout commence, là où tout s'achève. Pour les villageois, pour les campagnards en Afghanistan, Kaboul, c'est l'origine, c'est l'origine disons, de tous les maux, toutes les misères, tous les vices. Et pour les Kaboulites, eh bien, le reste du pays, c'est pareil. Parce qu'il y a un regard condescendant que Kaboul porte sur le reste du pays.
C'est une ville arrogante.
C'est une ville arrogante, une ville condescendante, disons.
Pendant l'occupation soviétique, notamment, en tout cas dans votre livre, le Mollah, le père du personnage principal, dit que on y idolâtre à Kaboul Lénine, on ferme les mosquées, on ouvre des clandés, on boit de l'alcool, on enlève le voile, on s'y promène tout nu. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'il pense à l'époque. Car ce narrateur, ce jeune homme que l'on suit dans cette histoire, il grandit pendant l'occupation soviétique qui commence en 81. Les communistes, le gamin, on a déjà vu quelques-uns, écrivez-vous, il connaît leurs chars et leurs jeeps, et puis ce qu'on appelle un jet qui s'approche et s'éloigne. Un jour, les villageois s'amassent autour du cadavre d'un jeune soldat aux yeux bleus. Le tireur l'avait visé pendant que le russe, une clope entre les lèvres, pissait debout sur la colline où il avait garé sa jeep. Alors la carcasse de ce soldat est jetée dans une fosse, et le village oublie la scène comme si elle n'avait jamais eu lieu, d'autant qu'un jour, les Russes disparaissent, et que le soldat Ivan ou Dimitri ou Sergueï est le dernier militaire à être entré dans le village et à en être jamais sorti. Rosromani, les soldats russes partis, une guerre civile commence et les Moudjahidines arrivent. jusqu'à l'arrivée au pouvoir de leurs successeurs, les talibans. En 96, votre personnage a donc 16 ans. Qu'est-ce qu'il en sait, qu'est-ce qu'il en connaît des moudjahidines, puis des talibans? Comment les jeunes des villages ruraux vivent cette période-là?
Bah écoutez, c'est une période assez difficile pour ces gens-là. Pour les jeunes et pour les personnes qui ne sont pas jeunes. Le problème, c'est que le personnage de ce livre, il est né en 80. Donc, au moment où les Russes arrivent en Afghanistan, et en 92, il a 12 ans. Donc, il connaît assez bien cette période parce que, tout d'abord, il a vu ce jeune soldat russe qu'on tue, qu'on assassine. C'est un moudjahidine qui l'assassine. Donc, il connaît un peu la Russie, l'invasion. Et puis, puisqu'il vit dans ce village, et puisque c'est l'enfant, le fils unique d'un mullah, donc d'une personne qui est un peu un petit dieu hein, de ce village, donc il connaît ce côté, le côté un peu sombre. Donc, disons le côté, parce que d'un côté on a les Russes, d'un côté on a les Moudjahidines, il connaît et les Russes et les Moudjahidines. Et puis, un jour arrivent les talibans. Ça, c'est, disons, la force la plus terrible, la plus obscurantiste. Et le jeune homme, bien que ce soit le fils d'un mullah, donc d'un fanatique, et même pour lui, les talibans, c'est incroyable ce qu'ils font. Parce qu'il y a le pays à ce moment-là, le village, c'est un pays, c'est le pays, le village ou l'endroit de toutes les interdictions possibles, de toutes les privations possibles. Le jeune homme, il n'a pas le droit d'écouter de la musique, il n'a pas le droit de chanter, il n'a pas le droit de jouer avec ses amis, il n'a pas le droit de lire ce qu'il veut lire, parce qu'il y a une dizaine de livres qu'il doit lire et c'est tout.
Et tous donc, les livres qui rappellent le Coran, enfin qui, oui, voilà, des exégèses, enfin des livres qui sont censés.
Il y a le livre tout d'abord
dans ses études coraniques.
Voilà, il y a le livre qui est le Coran, et puis une dizaine de livres qui sont liés au Coran.
Et que son père l'autorise à lire, ce sont les seuls livres qu'il est en droit de lire, sauf que ça ne l'intéresse pas du tout. Il commence à apprendre le Coran à 11 ans, mais un an plus tard, il n'a pu mémoriser que quelques sourates, ça ne rentre pas. Quand il va dans une ville à quelques kilomètres de son village, il voit des talibans se goinfrer au restaurant et partir sans payer. Les talibans dont on lui dit par ailleurs qu'ils ont noirci au charbon le visage d'un commerçant accusé d'avoir écouté de la musique. Dans le village du jeune homme, il devient obligatoire d'aller à la mosquée. Un appel à la prière en Afghanistan, il y a l'appel à la prière, il y a aussi l'appel que le mollah se met à faire à la mosquée pour s'assurer que tous les hommes du village sont là au moment de la prière. Ce mollah très dur avec son fils, il le traite en permanence de fils de pute, il le bat et quand il perd sa femme et en trouve une autre très jeune, il interdit à son fils de rester sous le même toit. Celui-ci va donc vivre en solitaire dans une sorte d'annexe extérieure transformée en épicerie. Il va rencontrer l'ingénieur, et ça c'est un personnage important qui disparaît assez vite dans le livre, mais qui est un personnage très important dans cette histoire. Khosromani, il vit dans le village, cet ingénieur, mais dans un logis reculé, et il vient passer quelques soirées silencieuses avec lui, et il lui offre une radio. Quel monde s'ouvre avec cette radio?
Bah écoutez, la radio, c'est l'ouverture totale, parce que c'est grâce à cet objet que le jeune homme, pour la première fois, il se rend compte qu'un autre monde existe. Parce que sa vie au village se résume à peu de choses. Le village, c'est quoi? C'est une petite colline, une petite forêt, un chemin de terre, une mosquée, une trentaine de villageois, parce que le village ne compte qu'une trentaine d'habitants, et un mode de vie. Et voilà, c'est tout. Et pour lui, c'est ça le monde, c'est ça l'existence. Tandis que quand il écoute la radio pour la première fois, tout d'abord, il y a une voix féminine. Et vous savez qu'il n'a jamais entendu ça dans sa vie entendu une femme parler, si, mais ses sœurs, si, mais sa belle-mère, une fois ou deux fois, mais c'était tout. Et là, pour la première fois, elle prend conscience que les femmes, elles existent, elles ont leur propre voix. Et là, il y a une femme qui lit Don Quichotte. Donc voilà. Et puis...
Ça le passionne, les histoires de Don Quichotte. C'est haletant, le moment entre deux épisodes où il ne sait pas exactement ce qui arrive à Don Quichotte, à Sancho Panza, etc.
Exactement. Parce que le village, c'est presque un désert. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. Et là, pour la première fois, il tombe sur un personnage assez bizarre, hein, un aventurier qui s'appelle Don Quichotte et qui essaie d'aller découvrir le monde, changer le monde. C'est ça qui est important. Et ça, pour moi, c'était le déclic. Le jeune homme, pour lui, c'est le moment. C'est le moment le plus important, peut-être, dans ce livre, de sa vie. Le moment le plus important de sa vie.
L'ingénieur lui tend la radio et lui dit « La radio, c'est le monde. » Et puis ce n'est pas seulement une radio, mais aussi un magnétophone. Ici, tu vois, il rapproche l'appareil de la lumière et baisse la voix. Tu peux mettre des cassettes. La cassette, il faudra l'écouter tard dans la nuit et avec précaution. Après avoir baissé le son, on appuie sur le bouton rouge et puis on colle son oreille contre le haut-parleur et on se laisse porter par la voix. Quant à la radio, il faudra apprendre à moduler les fréquences. Voit-il ces petits repères en relief ? Chacun d'entre eux cache un monde, certains vivables, d'autres insupportables. On fait de nombreux allers-retours entre les points pour trouver celui dans lequel on aimerait vivre.
درود بر شما میذارم خوب و خوش باشید.
Un extrait de la BBC en persan, c'est peut-être cette radio qu'écoute votre personnage, on ne sait pas, vous maintenez un certain flou sur où se passe exactement cette histoire, qu'est-ce qu'il écoute. En tout cas, il y a une chaîne en persan et la BBC diffuse en persan en Afghanistan. L'ingénieur aussi, d'ailleurs, depuis son camion lors de ses allers-retours, il a beaucoup, beaucoup écouté la radio. Il se rappelle exactement ce qui s'est passé en l'an 2000, par exemple. Il était à la fois en Afghanistan et ailleurs. En 2000, il sait que, par exemple, le dernier bouquetin des Pyrénées est mort écrasé sous un arbre en Espagne, qu'il y a eu un avion qui s'est abîmé dans l'océan Atlantique, que Grozny a été prise par des troupes russes, etc., etc. Et vous, Khosromani, où est-ce que vous étiez par la radio, tout en étant physiquement en Afghanistan ?
Bah écoutez, j'étais un peu partout, hein, parce que moi aussi, comme le jeune personnage, c'est pas mon histoire, mais moi aussi, je voyageais beaucoup grâce à une petite radio que j'avais à l'époque. Et vous savez, pour écrire ce que vous venez de lire, moi, j'ai fait beaucoup de recherches parce que trouver un événement spécifique en 2001, janvier 2001, janvier ou février 2002, bah, il fallait faire des recherches. Mais c'était une activité tellement joyeuse.
L'arrivée au pouvoir d'une femme pour la première fois en Finlande, voilà. 40 jours de pluie et d'orage au Mozambique, le franchissement du cap du milliard d'habitants en Inde, c'était en l'an 2000, et oui. Ça, l'ingénieur le sait parce qu'il écoutait la
parce
radio dans son camion.
Sa radio, sa boîte magique, il l'a toujours là, à côté de lui, et il l'offre à son ami. Moi, je pense qu'il lui offre deux choses qui sont très importantes dans sa vie. Il y a un livre... Tout d'abord, mais c'est pas un roman, c'est un livre d'informations pratiques qui s'appelle « Faire l'amour, mode d'emploi ». Et puis, il y a ce poste radio qui, elle aussi, qui lui aussi est très, très importante. Voilà, d'un côté, vous avez cette connaissance livresque, parce que le livre, il est là, et il va apprendre beaucoup de choses de ce livre, hein, et qu'il va pratiquer plus tard.
« Faire l'amour, mode d'emploi », vous voulez dire, voilà, ouais. Ça lui servira à Kaboul.
À Kaboul et même
avant, avec sa jeune belle-mère.
Voilà. Et puis la radio, parce que quand il arrive à Kaboul, il connaît, je crois qu'il connaît presque la capitale. Il y a une carte de Kaboul que l'ingénieur a dessinée. Et puis, il y a cette radio, bien sûr.
Il y a cette radio qui lui apprend un jour les attentats du 11 septembre 2001. La femme de la radio semble être là, sous les tours qui croulent. Elle a le souffle coupé, la voix blanche. Elle ne cesse de répéter le mot gratte-ciel qu'il entend, lui, pour la première fois. Que se passe-t-il exactement? Comment peut-on percuter une tour avec un avion? La femme se tait, une musique lugubre s'élève et s'arrête. Et quelques jours plus tard, dans un autre reportage, il entendra que les talibans ont quitté Kaboul. Il s'agit du 13 novembre 2001, quand les Américains sont entrés dans la capitale.
Au petit matin, sous le portrait du commandant Massoud, les soldats de l'Alliance du Nord entrent dans Kaboul sans combattre. Kaboul est tombé 24 heures à peine après le début de leur offensive sur la capitale. On craignait à ben sang l'arrivée de ces hommes d'ethnie minoritaire, les Ouzbeks, Hazaras, Tadjiks. Ils sont accueillis, y compris par les Pachtounes, en héros. Kaboul se sent libéré.
Tous les Afghans remercient Tony Blair, le gouvernement britannique, George Bush et la communauté internationale. Ils nous ont sauvés des griffes des terroristes.
Extrait d'un journal de France 3 devenu une archive INA, Rose Romani. C'est dans cette Kaboul-là, d'après la chute des talibans, que votre personnage arrive donc un beau matin ou un tout petit matin après un long voyage, d'abord en passager clandestin dans le camion de l'ingénieur, puis enfermé dans le coffre d'une voiture. À quoi ressemble la ville où il arrive, courbattu, sonné, épuisé par ce long voyage?
Oui, bah écoutez, il arrive au Kaboul, à Kaboul, je crois que c'était au 27 décembre 2001. Donc un mois ou 40 jours après la chute du régime taliban. Ce Kaboul, c'est une ville en ruine, parce que c'est une ville qui a connu toutes les misères dont je vous ai parlé, hein, l'invasion soviétique, ensuite la guerre entre les soviétiques et le gouvernement pro-soviétique et les moudjahidines, puis la guerre entre les moudjahidines, parce qu'il y avait une guerre civile à l'époque en Afghanistan, et puis les talibans, et la guerre entre les talibans et les moudjahidines. Et Kaboul, c'était une ville qui n'existait presque pas. Il n'y a que des bâtiments délabrés. Et je pense qu'à un certain moment, l'un des personnages dit que c'est une grande poubelle, le Kaboul. Parce que c'était ça. Et même le Kaboul que moi j'ai connu en 2003, c'était presque ça. Moi, je voyais certains cinémas, des bâtiments, des choses comme ça. Il n'y avait que deux, trois murs. Pas de plafond, pas de toit, rien.
Lui, il n'est pas le seul à chercher un logement, manifestement, dans Kaboul. Il doit se contenter d'une chambre dans un immeuble insalubre, et encore en payant 3 mois de loyer d'avance, avec pour colocataire un jeune homme qui est un peu le sosie de son père, avec plusieurs années de moins, un étudiant en médecine très rigoureux ou rigoré sur la religion, lui-même fils d'un mollah, d'ailleurs, dans son village d'origine, parce que lui aussi, il vient de loin. Est-ce qu'on les reconnaît de loin, les Afghans venus de villages reculés ou ruraux qui arrivent à Kaboul, Rose Romani?
Oui, je crois que c'est tout d'abord ce qu'on porte, les habits. Ça montre qu'une personne, cette personne-là, elle vient d'un village lointain, isolé. C'est tout à fait possible, ça.
Votre personnage, il regarde passer des véhicules bruyants, nerveux, il longe une montagne d'ordures, il traverse un pont, passe devant une poignée de vendeurs de rue qui crient à plein poumon et des charretiers qui, transpirant malgré le froid, poussent leurs grosses voitures à bras, des chiens errants et des chats, des âmes faméliques et des chevaux, des carcasses de moutons suspendues à l'entrée d'une boucherie, des magasins de musique et de vidéos, une papeterie devant laquelle s'est assoupi sur un tabouret un écrivain public, etc. Il découvre cette capitale qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'il y a des codes à connaître et à apprendre pour vivre à Kaboul?
Moi, je pense qu'à cette époque-là, non, il n'y a rien à apprendre. Parce que c'est une ville chaotique. Il n'y a rien. C'est une ville, c'est une ville morte qui renaît de ses cendres. Hein. C'est métaphorique, mais c'était un peu ça, Kaboul, le Kaboul que le jeune homme a connu et que moi j'ai connu quand je suis allé à Kaboul pour la première fois, pour la deuxième fois. Et il y a pas de code à connaître, mais il y a les traces, les vestiges de tout un passé, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est une ville qui a existé, qui avait connu tous ces modes de vie différents, parce que imaginez, de 1919 à 2001, Kaboul a connu un roi modernisateur, mais très très modernisateur. Et puis il a connu 40 ans de royaume, stabilité politique, et puis une décennie qu'on appelle la décennie de la démocratie. Donc c'était le Kaboul que l'ingénieur a connu. Une ville en pleine effervescence, très vivante, très joyeuse, parfois très mélancolique, bien sûr. Et puis le Kaboul des années 70 et des années 80. Donc voilà, il se rend à Kaboul, il se trouve à Kaboul, et puis il voit tout ça, tout se passer.
Il le voit, il l'imagine, il dit à un moment, votre personnage, je pensais sans trop savoir pourquoi, à celui qui était assis sur ce banc, là où je suis, il y a 40 ans, jour pour jour, à cette heure-ci du soir, à quoi rêvait-il et à qui? Combien de personnes s'étaient-elles promenées dans ce petit parc minable aux rares arbres mutilés dont les feuilles sont grises de poussière même au printemps? Combien d'autres s'étaient-elles allongées sur ces herbes maigres qu'on appelle pelouses? S'étaient-elles embrassées? Avaient-elles rêvé de l'avenir, de ce jour, de moi assis sur ce banc 40 ans plus tard?
Oui. Oui, il y a un Kaboul qui existe, un Kaboul réel, et il y a un Kaboul qu'il imagine. Et moi, pour moi, c'était très important. Et vous savez, dans ce livre, moi, je pense que j'ai montré ce livre, mon livre, de trois amis afghans qui l'ont lu et qui m'ont dit bah, écoute, là, on connaît ces endroits-là, ces lieux-là, ils existent à Kaboul, c'est le Kaboul qu'on connaît. Mais ça, par exemple, ce quartier-là, ça n'existe pas. Bah, ça n'existe pas parce que moi, je l'ai imaginé, je l'ai inventé, comme le personnage. Donc, d'un côté, on a ce parc qui est un parc qui existe, qui est un parc réel. Et puis, il y a toutes ces histoires qu'il imagine.
Vous avez imaginé tant de choses autour d'ailleurs de ce personnage qui un jour pousse la porte de ce qu'il pense être une librairie, rencontre deux cousins en train de jouer à un jeu qui lui prête à peine attention. Ils vont ensuite, à force de s'apprivoiser en quelque sorte, finir par devenir très proches tout en ayant cette relation très spéciale, faite beaucoup, beaucoup d'ivresse. Par ailleurs, ces deux hommes, Sam et Aman, deux cousins qu'il a rencontrés donc par hasard, et ils achètent ensemble une vieille voiture qui doit leur servir à faire le taxi, où ils passent en fait des nuits entières à faire des tours et des tours dans Kaboul, dans leur Volkswagen pourri. Mais heureusement, l'autoradio fonctionne toujours. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token. Vous aussi, vous avez beaucoup écouté Nina Simone à tue-tête en voiture dans Kaboul, Ross Romano.
Je l'adore. Bah oui, écoutez, c'était ma chanson préférée. Des années, des années, des années, je l'écoute toujours.
Qu'est-ce qu'elle vous fait? Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson-là? Pourquoi cette chanson-là? Comment vous l'avez découverte par ailleurs? Dans un pays où on a longtemps, enfin c'est par période, mais où il vous a été aussi interdit, refusé d'écouter de la musique.
Oui. Mais c'était avant 2001.
Oui.
Le Kaboul que moi j'ai connu, c'était le Kaboul d'après 2001. Donc c'était une ville très 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 libre. Pour nous, au moins, on était libre. Ma génération. Et dans la solitude d'une Volkswagen pourrie, toujours, avec mes amis, Volkswagen, parfois une Mazda, parfois une Toyota, j'ai écouté cette chanson, on a écouté cette chanson mille fois, plus de mille fois. Et voilà, je l'ai découverte ainsi. Il y a une différence entre le personnage et moi. Lui, quand il a écouté pour la première fois cette chanson, il ne comprenait pas ce que disait Nina Simone. Moi, je comprenais tout à fait ce qu'il disait.
C'est vrai que votre personnage ne parle pas un mot d'anglais. Et ces phrases de Nina Simone, le martèle à coups de poing, Aman, l'anglophone, les lui traduit simultanément. Mais c'est vraiment Sam, le cousin d'Aman, qui tient absolument à écouter Nina Simone à chaque fois qu'ils partent dans leur virée nocturne. Nina Simone, c'est presque une des rares voix de femmes dans votre roman. Les seules femmes qu'on rencontre dans votre livre, ce sont d'abord la belle-mère du jeune homme qui devient sa maîtresse, une femme qui, elle, est libre comme l'air, comme le vent, qui parle comme personne ne peut parler au village. Écrivez-vous, on est encore là, à l'époque des Moudjahidines et des Talibans. Mais les autres femmes qu'on croise, ce sont des prostituées à Kaboul, et encore, elles ne sont que des ombres. Pourquoi ?
Bah écoutez, la réponse la plus simple, c'est que c'était comme ça. Le Kaboul que j'ai connu, l'Afghanistan que j'ai connu, le village que j'ai connu. Moi, je n'ai pas connu ce village, le village du roman. Mais ce n'est pas la réponse, ma réponse préférée. Parce que je n'aimerais pas réduire le livre à mon expérience, mes expériences personnelles. Les femmes n'existent pas parce que moi, je crois que le personnage, bien qu'il aime les femmes, au village, il y a sa belle-mère, il y a deux, trois femmes, une sage-femme et puis une autre femme qui le nourrit pendant un certain temps. Et puis à Kaboul, il y a cette prostituée et il y a deux, trois autres femmes.
Dont ils tombent amoureux, on peut le dire. Enfin, en tout cas, ils ont une relation très
voilà. Ils tombent amoureux très facilement, le jeune homme. Et pourquoi il n'y a pas de femmes dans sa vie ? Parce que moi, je pense que bien qu'il aime les femmes, je me répète, eh bien, c'est quand même... il a un côté très masculin, très masculiniste. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. Et il aime trop ses amis. Au village, il avait un ami qui s'appelait Zaki, qui a été assassiné plus tard. Et ils avaient des relations très amicales. Et puis, à Kaboul, il y a ces deux gens-là, ces camarades qui s'appellent Sam et Armand. Et là aussi, ce sont deux hommes. On ne parle pas d'une femme. Il parle de son amour de la prostituée, mais il en parle d'une façon... Et implicitement, je ne sais pas pourquoi, la femme n'a pas de nom, n'a pas de visage, n'a pas de voix. On ne l'entend pas parler, si, une ou deux fois, et c'est tout. C'est sa vision, moi, je pense. Hein. C'est un homme qui est très, très enfermé. Malgré les ouvertures, tout d'abord au village et puis à Kaboul, la radio, le livre, les livres, tout ça. Malgré tout ça, il reste quelqu'un de très solitaire, isolé.
Et dans un monde finalement assez petit, parce que même s'il ne cesse de se déplacer dans Kaboul, il fait un peu du surplace, on a l'impression, on en parlera en quelques mots, vous aimez le mot « errance » en français, et c'est une longue errance dont on ne sait pas où elle le mène, qu'il entreprend dans Kaboul. Ces nuits d'errance qui sont aussi des nuits d'ivresse. Où et comment se procure-t-on de l'alcool à Kaboul après les talibans ? Parce qu'on a l'impression que quand ils vont dans l'échoppe de cet homme que vous appelez Alkolov Alkolovitch, qui leur sert, c'est un huilier, ils vont de l'huile et c'est lui qui leur sert à chaque fois de l'eau de vie, de l'alcool, on a l'impression que c'est quelque chose d'encore prohibé à ce moment-là.
Oui, ça a toujours été le cas. Hein. Même
avant les talibans.
Même avant, même après. Aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est interdit. Mais vous savez, c'est l'un des paradoxes de cette ville. On connaît un quartier et c'est là qu'on vend ça, l'alcool. C'est là que les gens connaissent même les boutiques, les commerces. On connaît que ce commerce-là, cette boutique-là, par exemple, apparemment, il y a quelques bouteilles de jus d'orange, je sais pas, de jus de pomme, des choses comme ça. Mais c'est pas ce qu'ils vendent, ces commerçants. Ce qu'ils vendent, c'est de l'alcool. Et on voit ça, on sait que c'est le cas, et pourtant, c'est implicite. C'était un peu ça, le Kaboul que j'ai connu, que le personnage a connu. Et même aujourd'hui, bah, écoutez, je suis en contact avec quelques amis, il n'y a plus de commerçants comme avant, mais il y a des gens qui vendent ça, de l'alcool, et qui trimballent leurs bouteilles dans les coffres de leur voiture.
Alors, il faut pas se faire prendre parce que la contrebande d'alcool est fortement punie. Alors, les peines sous la charia se déclinent en nombre de coups de fouet. 80, par exemple, même si ça dépend des volumes. Il y a eu des saisies spectaculaires en 2022. Les talibans se sont filmés en train de jeter par-dessus un canal de grands barils bleus avec, selon eux, 3000 litres d'alcool dedans. Alors, difficile de savoir si c'était une forme de communication ou pas. En mai 2022, par ailleurs, le Kabul Times rapportait la saisie de dizaines de bouteilles de vin lors de la découverte par la police d'une fabrique de vin dans le quartier Taïmani de la capitale. Et avant que je ne sache de quoi il s'agit, dit votre narrateur, il me sert et sert Sam et se sert. Ils lèvent leur verre, j'en fais autant à la tienne et cette langue de feu qui me brûle la gorge, la poitrine, l'estomac. Je suis sur le point de rendre tripes et boyaux. On me donne un verre d'eau que je vide aussitôt. Je remonte doucement la pente, un peu ragaillardi. Est-ce vraiment ça dont l'ingénieur me parlait de temps à autre? Tu nous avais pourtant dit que tu buvais du pouce au crime. Que je buvais quoi ? De l'alcool, traduit Sam. C'est donc ça, la fameuse eau amère. Il ne reste qu'un goût âpre dans ma bouche après que je l'ai avalé. Je suis de bonne humeur en revanche et ma langue, qui sait plus que moi comment se tenir, se met soudain à dire des choses que je ne dis jamais qu'à moi-même. L'alcool, par ailleurs, il a toujours été présent dans la poésie persane en Afghanistan. Il y a plein de contradictions aussi sur cette question de l'alcool dans le pays.
Oui. Écoutez, Omar Khayyam, qui est connu, hein, ses 4 ans, bah, il parle que de ça. Il y a Hafez qui parle que de ça. Et nous, écoutez, puisque c'est une société conservatrice, ce qu'elle dit, c'est que, ce que les gens de cette société disent, c'est que là, Omar Khayyam parle du vin mystique. Le vin mystique n'existe pas. C'est le vin réel, c'est l'alcool réel. Et moi, je pense que c'est toujours le cas, ça a toujours été le cas. L'alcool, pourquoi tant de beuverie, tant d'ivresse? Parce que l'alcool, en Afghanistan, pour nous, pour la génération de mes parents, pour ma génération, et je suis sûr et certain pour les générations d'avenir, c'est la seule façon, ou peut-être pas la seule façon, mais la façon la plus appropriée de dire non aux tabous, aux règles strictes, sociales, culturelles. Parce qu'il y a d'abord la religion qui interdit ça, et puis il y a les traditions. Parce qu'une personne qui boit, c'est une personne mal vue. Ce geste est mal vu.
Il y a toutes les façons qu'il y a de parler d'alcool dans la langue persane. Si j'ai bien compris, en Afghanistan, quand on veut se procurer de l'alcool, on ne dit pas « sharab », mais « dawa », qui est un médicament. C'est ça?
Oui. Oui, on disait ça parce que, vous savez, sharab, ça veut dire alcool. Mais quand vous dites dawa, ça veut dire médicament. Je ne sais pas comment, mais on a inventé ce mot pour ne pas dire sharab, pour ne pas dire l'alcool. Voilà, est-ce que tu veux boire du médicament ce soir? Et votre interlocuteur, il sait que on parle d'alcool.
Alors justement, sur le choix des mots, en quelques mots, Rose Romani, vous avez écrit, c'est votre premier livre, Rattraper l'horizon, c'est votre premier livre directement écrit en français, qui, contrairement à la langue persane, n'est pas une langue où on peut facilement inventer des mots. En langue persane, la langue est peut-être plus malléable. Quelles difficultés particulières ça pose à un persanophone comme vous, qui vivez en France depuis 2015, qui certes apprenait le français depuis que vous avez 15-16 ans, les difficultés que vous avez eues à écrire en français ou les questions que ça vous a posées, la façon dont vous avez voulu écrire et vous saisir de cette langue?
Bah écoutez, la malléabilité, c'était pas ça le problème principal. Le problème principal pour moi, c'était le rythme. Trouver le rythme. Parce que écrire correctement, je pense pas que ça soit difficile. Même si on écrit incorrectement, on peut se corriger. Quand on écrit surtout, on peut se corriger. Mais trouver son rythme, ça, c'est très difficile. Et vous savez, le problème, c'est que la langue persane, c'est une langue très lyrique et très rythmique en même temps. Justement parce que c'est une langue poétique. Il y a une tradition millénaire poétique. Et moi, je viens de la poésie. Quand j'étais enfant, j'écrivais des poèmes. Donc, pour moi, là, il y a une métrique. Moi, je maîtrise la métrique persane et aussi le rythme de tous ces registres. Et puis, il y a le français, qui est une langue complètement différente, avec un rythme différent. Et il fallait que moi, j'apprenne ça, j'apprivoise ça, entre guillemets. Et voilà, quand j'écrivais une phrase, je me relisais et j'ai relu presque toutes les phrases de ce livre et je les ai réécrites parce que c'était pas la première écriture ne suffisait pas. Et ce que je faisais, c'était de pouvoir réconcilier les deux rythmes. C'est pourquoi c'est un livre écrit par un personophone, écrit en français. Moi, je suis sûr et certain que pour un francophone, quand il lit ce livre, il constate à un moment donné qu'en tant que français, il ne dit pas ça comme ça.
C'est une écriture déroutante, mais en même temps, on vous suit très facilement. C'est très beau, c'est très. On vous suit avec grand bonheur. Votre éditeur dit que vous avez écrit en français avec des accents persans.
Voilà.
Et c'est sur cette phrase qu'on écoute un bout de la voix d'Armad Zahir, un chanteur que vous citez très souvent dans votre livre, l'Elvis de Kaboul, qui vous a énormément suivi aussi dans votre enfance.
در کنج دلم و در کنج دلم اشته کس خانه نداره کس راه در این کلبه ویرانه نداره در کنج دلم و در کنج دلم اشته کس خانه نداره کس راه در این کلبه ویرانه نداره دل را به کفه هر که دهم باز پساره کس تا به نگهداری دیوانه نداره دل را به کفه هر که دهم باز پساره کس تا به نگهداری دیوانه نداره در کنج دلم و در کنج دلم عشق کس خانه نداره کس راه در این کلبه ویرانه نداره در کنج دلم و در کنج دلم عشق کس خانه نداره کس راه در این کلبه ویرانه نداره
Armad Zahir et cette chanson qui se trouve sur une compilation qui date des années 70. Ros Romani, vous pouvez nous en dire un mot de l'Elvis de Kaboul, l'âme chantante de la capitale?
Bah écoutez, c'était le fils du premier ministre de l'époque, assassiné pas par les Russes, mais par le gouvernement pro-russe, à 33 ans. C'est l'Afghan le plus aimé de l'histoire contemporaine de l'Afghanistan. Et moi, je crois que c'est la jeunesse de l'Afghanistan, la jeunesse perdue de l'Afghanistan. Et après sa mort, l'Afghanistan n'a jamais connu le bonheur.
N'a jamais
après
retrouvé
son assassinat.
Lui dont l'existence, écrivez-vous, qui n'était qu'une orgie de chair, de vin et de bruit, a tourné court à l'intérieur d'une Mazda écarlate sur une route tortueuse qui reliait la vie à la mort.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Et on n'a pas parlé de la sécheresse par ailleurs dans votre livre, Ros Romani, la rivière est à sec à Kaboul, dans le village où grandit votre personnage également. Les animaux meurent les uns après les autres, la sécheresse est là et bien là. Le printemps reste sec, âpre et pâle, mais il y a des rossignols quand même, il y a un canari, des libellules, des papillons, des saules, des pins, des peupliers, un cognassier sauvage et des fleurs. Ces fleurs qui sont partout en Afghanistan et que la journaliste Oriane Zera a photographié comme on photographie l'âme d'une nation. C'est ce que lui a dit un jour l'un de ses amis afghans. Bonjour Oriane Zera.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes photographe, voyageuse, écrivaine. Vous avez fait paraître le livre des Afghans et des fleurs en 2022 aux éditions Équateur et l'année suivante un livre de photos des roses sous les épines aux éditions Images Plurielles. Ce sont des livres qui ont donc paru après la reprise de Kaboul par les talibans l'année précédente, en 2021. Mais c'est le travail de 10 années en Afghanistan, dont 6 à vivre sur place. Vous allez nous le raconter, mais d'abord, quand vous retournez dans la capitale afghane, 3 semaines après le retour des talibans, est-ce que ces fleurs que vous avez tant photographiées sont toujours là ?
Oui, les fleurs sont toujours là, elles persistent, elles sont toujours présentes. Et je les ai photographiées avant l'arrivée des talibans, et j'ai continué à les photographier et à les filmer après.
Parce que vous aviez vu sur le compte Instagram d'une amie afghane un taliban avec une fleur, et ça vous sidère, et vous allez à Kaboul pour le voir de vos propres yeux. Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Qui est-ce que vous rencontrez ?
Alors en fait, j'avais été évacuée, quand les talibans ont pris le pouvoir, j'étais sidérée par la peur, comme beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'être évacuée par la France, et je suis revenue 3 semaines après parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas de guerre civile, et on nous a dit que les étrangers pouvaient travailler en toute sécurité. Donc je suis rentrée à Kaboul et je suis tombée sur la photo d'une amie journaliste qu'elle avait postée sur Instagram d'un taliban avec une fleur au bout de sa kalachnikov. Et j'ai pas trop su quoi faire en fait de cette image. Et j'ai une amie journaliste qui m'a dit: va, prends les photos, mets-les dans tes archives, ne réfléchis pas et tu verras après ce que t'en fais. Parce que pour moi, associer un taliban avec une fleur, c'était totalement antinomique. Et voilà, donc ça a été une des premières, une vraie question sur est-ce qu'il fallait que je prenne cette photo ou non.
Et d'ailleurs, quand vous retournez sur place, vous le cherchez, ce taliban que vous avez vu en photo avec une fleur, et vous vous adressez à 3 jeunes talibans qui le connaissent et qui vont le chercher.
Oui, parce que j'ai demandé à la journaliste où elle avait pris cette photo. Elle m'a indiqué que c'était près d'un checkpost dans le centre de la ville que je connaissais. Et je suis arrivée là-bas et j'ai montré la photo en demandant où était ce taliban qui était un gamin de 17-18 ans. Et il y a trois autres talibans qui m'ont demandé pourquoi. Je leur ai montré la photo en disant voilà, moi je fais un travail sur le rapport entre les Afghans et les fleurs. Et ça les a fait rire. Ils sont allés le chercher, et quand il est arrivé, il avait sa fleur était totalement flétrie, puisque la journaliste qui avait publié la photo l'avait fait quelques heures auparavant. Mais il m'a assuré en fait qu'il mettait une fleur tous les matins au bout de sa kalachnikov et de revenir le lendemain. Et voilà, ça a été. Je suis rentrée et j'étais vraiment assaillie de pensées contradictoires. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé cette amie journaliste qui m'a dit: vas-y, prends la photo, ne réfléchis pas. Mais voilà, c'était très déconcertant. Et quand je me suis pointée le lendemain au ce même checkpost, en fait, ils m'attendaient tous avec des fleurs au bout de leurs armes. Donc j'ai fait les photos que j'ai jamais postées sur les réseaux sociaux, parce que j'étais pas là pour faire de la propagande ou l'apologie de ce régime, évidemment pas. Mais je les ai gardées dans mes archives et j'ai essayé en fait de trouver quel sens y donner, puisque pour nous les armes et les fleurs sont totalement antinomiques. Et en fait là-bas, il semblait qu'elles pouvaient aller de pair. Voilà. Donc
Avec tout ce cheminement, en effet, que de votre réflexion pour ne pas faire de propagande, avec ces fleurs qui s'épanouissent aujourd'hui encore et depuis toujours en Afghanistan, dans un climat rude et sec, donc de quelles fleurs s'agit-il ?
En fait, moi, j'avais eu cette idée de projet de parler de l'Afghanistan à travers la relation que les Afghans ont avec les fleurs, parce qu'on montre toujours ce pays sous le prisme de ces tragédies, de la violence, des restrictions faites aux femmes, des talibans, de la drogue, et c'est des tragédies qui sont bien évidemment et bien malheureusement réelles, mais j'avais moins envie de montrer en fait autre chose, l'autre côté de l'histoire. Et j'avais remarqué, mais comme quiconque va en Afghanistan, qu'il y avait une véritable passion des Afghans pour les fleurs. Donc je me suis dit, je vais parler de ce pays au travers ou par les fleurs. Et donc il y a eu les roses, parce que il y a des roses de Damas qui poussent, et il y a une production d'huile essentielle de roses. Il y a les fleurs de safran. Le pays produit du safran à l'ouest, dans les régions frontalières avec l'Iran. Il y avait les fleurs d'opium, le pavot aussi. Ces fleurs, voilà, à la beauté enfin, qui sont d'une très belle beauté, mais au poison mortel.
Et qui ont été quasiment éradiquées par les talibans, quant à elles, ces fleurs-là en particulier.
Oui.
Des champs de fleurs d'oranger aussi, dans l'Est, la province de Jalalabad.
Les fleurs d'oranger aussi, et puis surtout les fleurs dans les jardins, parce que dès qu'un Afghan, de ce que j'ai pu voir, un petit lopin de terre, et j'avais vu ça même dans des camps de déplacés, c'est-à-dire des Afghans qui avaient fui les combats ou la sécheresse et qui se retrouvaient entassés sous des tentes. Dès qu'ils avaient un petit bout de terre, ils plantaient des graines et il y avait comme ça une fleur, une rose qui poussait.
Il y a aussi des fleurs dans les prénoms, dans les albums photos aussi, partout, pour les femmes comme pour les hommes. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi, ce qui peut surprendre dans vos photos, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui portent ces fleurs et qui les mettent en avant et qui s'emparent aussi pour certains.
Oui, bah c'était intéressant pour moi de... Alors, il y a beaucoup d'hommes, mais c'est... le fait qu'il y ait moins de femmes, c'était aussi une façon de parler du pays, puisque les hommes, je pouvais les photographier dans l'espace public sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, les Afghans adorent poser, alors que les femmes, c'était quasiment impossible de leur demander de poser comme ça dans la rue. Donc, celles que j'ai photographiées, c'est chez elles et c'est des femmes que je connaissais déjà. Donc, le fait qu'il y ait plus d'hommes, pour moi, c'était une façon aussi de parler du pays. Et puis aussi du rapport qu'on a. Enfin, pour nous, les fleurs, c'est lié à la féminité, du moins en Occident. Alors que là-bas, les hommes s'affichaient avec des fleurs parfois derrière l'oreille. Il y a même une province dans le sud où la tradition veut que les hommes mettent placent des fleurs sur leur pacole, qui est un des couvre-chefs traditionnels. Donc voilà, il y avait un rapport aux fleurs aussi et au masculin que je trouvais intéressant.
Avec, on peut citer le film Un été afghan de James Ivory qui a été tourné dans les années 60 mais qui n'est sorti qu'en 2022, où on voit un Afghan qui danse avec une fleur derrière l'oreille et que vous citez aussi dans votre travail. Donc la guerre n'a pas fait disparaître les fleurs, on a continué à les cultiver, à les acheter, à les soigner comme une beauté à portée de main, dites-vous. Et vous, Oriane Zora, avez continué à les photographier. Peut-être pour conclure, comment est-ce que vous abordiez ces Afghans et ces Afghanes avec des fleurs, à moins vous ne leur offriez des fleurs?
C'était une partie du travail, c'était de faire des portraits, de réaliser des portraits d'Afghans avec des fleurs. Donc je me baladais dans Kaboul, j'étais en voiture avec quelques fleurs et dès que je voyais un visage m'interpeller, il y avait un beau background derrière, une belle lumière, je m'arrêtais, je tendais une fleur et ensuite je demandais ce que la fleur représentait pour cette personne. Et il y avait ce petit moment de grâce où je tendais la fleur, où la personne en fait lâchait prise. Je pense qu'il y a je me dis toujours que si je lui avais tendu une Kalachnikov, ça aurait pas été la même réaction. Il y aurait sûrement eu un moment de tension, mais avec une fleur, il y avait un petit moment qui était fugace, mais qui me suffisait pour que je prenne la photo. Et ensuite, je leur offrais, je faisais développer la photo et je leur offrais en fait un tirage.
Et vous avez donc doublé, en quelque sorte, le nombre de fleurs en Afghanistan par vos photos. Merci beaucoup, Oriane Zera. Des Afghans et des fleurs, votre livre apparu en 2022 aux éditions Équateur. Et l'année suivante, le livre photo des roses sous les épines chez Images Plurielles. Merci beaucoup, Rose Romani. Dans votre livre, quand les deux cousins invitent le narrateur à s'arroser la rosière, il s'agit plutôt d'alcool et pas de fleurs. Néanmoins, il y en a éparpillé ici et là, un saule en fleurs. C'est le printemps à un certain moment dans votre récit, donc peut-être que ça vous parle, mais comme on arrive à la fin de cet entretien, peut-être un mot justement sur la fin du roman qu'on ne va pas dévoiler. Néanmoins, comme vous nous disiez tout à l'heure que vous aimiez le mot errance, on peut au moins dire que le jeune homme prend une nuit la décision de quitter Kaboul. Est-ce que l'exil qui l'attend est une errance?
Écoutez, oui, c'est ça, c'est l'errance, parce que à un certain moment, le passé finit par le rattraper, le jeune homme. Sauf que lui, il aime beaucoup l'horizon. Et donc, il se lance. Il ne va pas rester à Kaboul.
Il ne sera pas à Kaboul quand les talibans reprendront et la capitale afghane et le pays. Le 15 août 2021, il y a maintenant plus de 4 ans. Et ce livre, Rattraper l'horizon, Rose Romani, vous l'avez écrit à partir de 2022, après le retour des talibans, et sans doute comme un élan que vous avez eu à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup d'être venu en parler dans Culture Monde, Rattraper l'horizon, votre dernier roman écrit en français, apparu chez Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Je vous emmène en Chine ce matin pour des changements en ce 1er janvier. Si la deuxième économie mondiale connaît depuis des années une crise démographique avec un vieillissement de sa population, pour relancer la natalité, Pékin lance à partir d'aujourd'hui un nouveau système fiscal. Fini les taxes sur les services de garde d'enfants. L'accouchement va devenir quasiment gratuit aussi, annonce l'agence de presse officielle chinoise. Allongement également du congé parental, ajoute la BBC, et dans le même temps, les Chinois devront payer, à partir d'aujourd'hui, une TVA de 13% sur les contraceptifs, dont les préservatifs, comme le note la chaîne télévisée australienne ABC et la radio internationale allemande Deutsche Welle. Ce qui fait craindre une hausse des grossesses non désirées et une hausse des infections sexuellement transmissibles, alors qu'elles ne cessent d'augmenter en Chine, notamment chez les 15-24 ans, alerte le Time Magazine. 670 000 cas de syphilis recensés en 2024. 100 000 cas de gonorrhée et près d'1,5 million de Chinois vivent désormais avec le VIH, chiffre là encore en hausse. Alors la Chine est également confrontée à un ralentissement économique, ajoute la BBC, à une crise immobilière qui a affecté l'épargne et plongé les familles dans l'incertitude, voire dans la méfiance quant à leur avenir. Seulement 9,5 millions de naissances enregistrées l'an dernier, c'est deux fois moins que la natalité il y a 10 ans, lorsque la Chine avait commencé à assouplir sa politique de l'enfant unique. Des freins subsistent encore et toujours pour avoir un enfant, reconnaît l'agence officielle chinoise. La Chine figure parmi les pays où élever un enfant revient le plus cher aux parents, souligne CNA et le quotidien britannique The Times. C'est l'équivalent de 65 000 à 86 000 euros jusqu'aux 18 ans de l'enfant, soit 6 fois le PIB par habitant en Chine, précise la chaîne télévisée CNA, un ratio 3 fois supérieur à celui de l'Australie et de la France, notamment en raison de frais de scolarité élevé, indique la BBC. 40% des couples mariés en Chine n'ont pas d'enfants aujourd'hui, soit 188 millions de couples. Et une journaliste de CNA a rencontré l'un d'entre eux à Chengdu, dans le centre de la Chine. Xiaoying et Jeanne, son mari, ont décidé de ne pas avoir d'enfants pour s'assurer un bon niveau de vie. Une tendance mondiale qui se lit dans un acronyme DINK, Double Income No Kids, soit double salaire sans enfants. J'ai toujours eu des convictions DINK pour ne pas avoir d'enfants. Et je l'ai dit à mon compagnon dès le premier soir où il m'a avoué ses sentiments, raconte Xiaoying. Il n'est financièrement pas avantageux pour nous d'avoir un enfant. Cela demande beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, renchérit son mari, si on veut donner à cet enfant une bonne éducation et un environnement sain. Si bien que cela nous empêcherait de mener notre vie comme on l'entend, de réaliser nos rêves, alors qu'aujourd'hui, on peut prendre le temps pour voyager, profiter pleinement de la vie. Et puis nous avons des animaux de compagnie, sourit son épouse Xiaoying. Un choix que les parents de ce jeune couple chinois ont finalement compris, confie-t-il à la caméra de CNA. La Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, abrite aujourd'hui un quart des personnes âgées de la planète, mais seulement 7% des nouveau-nés, souligne le Times. Et pour remédier à la baisse de la natalité dans le pays, le gouvernement a annoncé l'an dernier une mesure inédite en Chine. Une allocation familiale annuelle de 3600 yuan, soit 420 euros par enfant de moins de 3 ans, rapporte la télévision d'État CCTV. Mais il faudrait une politique encore plus ambitieuse et égalitaire pour les femmes, souligne Cindy Yu, éditorialiste au Times, journal britannique.
The cost of raising a child in a Chinese city is roughly 667,000 yuan, or the equivalent of 70,000 pounds.
Élever un enfant dans une ville chinoise coûte l'équivalent de 86 000 euros. Autrement dit, la nouvelle allocation couvre à peine quelques cours de natation, explique l'éditorialiste du Times. Les démographes affirment qu'une véritable politique de soutien à la parentalité nécessiterait des aides bien plus importantes, des allègements fiscaux et des subventions immobilières représentant au moins 5% du PIB. Et puis, en Chine et dans le monde développé, les mères sont davantage
davantage pénalisés que les pères dans leur carrière professionnelle. Alors beaucoup de femmes font tout simplement le choix de ne pas avoir d'enfants, analyse l'éditorialiste du Time. C'est de citer un démographe pour qui la faible fécondité n'est pas une question d'argent, c'est une question d'égalité. Et tant que cela ne changera pas, l'argent ne provoquera pas de baby-boom. Le Guardian craint, lui, des mesures intrusives des autorités chinoises pour relancer la natalité. Le South China Morning Post et The Economist citent des plaintes de plusieurs femmes qui ont reçu des appels de responsables locaux en Chine, les interrogeant sur leur cycle menstruel et leur projet d'enfant.